Le masque et la plume, c'est tous les dimanches soirs sur France Inter à partir de 20h. Le masque et la plume. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en public au théâtre de l'Alliance française pour un masque et la plume consacré ce soir à l'actualité du cinéma avec le convoi exceptionnel de la critique Daniel Lehmann, de Bande à part Nicolas Chalère, de l'Obs Pierrot, Pierre Murat, de Télérama, très jolie chemise, et avec Jean-Marc Lalanne des Inrecuptibles. On parle ce soir de convoi exceptionnel de Blier, mais aussi de Sunset de Nemes, du nouveau film de Xavier Dolan, de Us de Jordan Peele, de Dernier Amour de Benoît Jacquot, de Rebelle d'Alan Mauduit, mais aussi de Mon Bébé de Lisa Azuelos. On peut dire que c'est le grand écart, cette émission. Dans le courrier de la semaine, enthousiasme de nos auditeurs pour Grâce à Dieu de François Ozon. Pierre Cuzor salue la pudeur et la retenue. La caméra filme exactement à la bonne distance cette histoire véridique de pédophilie dans le diocèse lyonnais des années 90. Un grand film indispensable. Pour Julien Duvivier de Lyon, le film est fort, quasi glorieux, et Ozon parvient miraculeusement à ne condamner personne. La messe est dite et Ozon touché par la grâce. Pour Patrice Piche de Toulouse, Grâce à Dieu est un film qui a la foi en son spectateur et en son intelligence, pas un réquisitoire, mais une investigation objective, de quoi relever le niveau des Césars 2020. Christine Fink trouve que Denis Ménochet dégage une énergie exceptionnelle, ça c'est vrai. Il me fait penser, dit cette auditrice, j'aime beaucoup la formule, à un bulldozer en porcelaine. Et c'est aussi un grand film sur la parole libérée. Philippe Poitier de Paris parle d'un film implacable en forme de coup de poing. Ozon parvient à surpasser les codes du genre et à en faire son œuvre la plus réussie et peut-être la plus atypique. Et puis Ghislaine du Perreux sur Marne nous dit « Vous jugez les flashbacks superflus, pas moi. Je trouve au contraire que l'image de ces corps fragiles de garçonnets souligne à l'écran la vulnérabilité de l'enfance si facilement brisée. » Même sentiment de Louisa Barrico de Poitiers, les scènes flashback ont tout leur intérêt, elles équilibrent par leur pudeur les déclarations crues des victimes. Seul bémol, eh bien, c'est Marianne Briand d'Amsterdam qui juge que le film d'Ozon ne contient pas la moindre idée de mise en scène. Il pourrait se voir les yeux fermés. Eh bien, moi, je suis pas d'accord. Et puis, il y a des défenseurs du mystère Henri Pic de Rémy Besançon qui a été très abîmé à la tribune du Masque et la Plume. Agnès Dossert nous avoue, vous êtes ma famille d'oreilles. J'étais sûr que vous alliez dire du mal du mystère Henri Pic. Ce n'est pas un grand film, mais je l'ai aimé. Alors la suite est plus quand même paradoxale, un peu comme j'aime la mozzarella, qui n'a pourtant pas beaucoup de goût. Alors je sais pas. Madame Bragard de Sainte-Foy-lès-Lyon, pourquoi avoir dézingué le mystère Henri Pic? Vous êtes vraiment une bande de pisse froid. Le film est drôle, bien ficelé, bien joué du bonheur, ou Nadine Doyen de Troyes. C'est pourtant une ode au livre, ce film, qui invite même à lire les auteurs russes et à découvrir Brötigan. Ou Grégory Roure, qui habite la Normandie, la comédie est assumée. Il n'y a pas de Maccabée. Cotin et Lucchini cabotinent, c'en est un régal. Et puis on nous vante les mérites de Brötigan ou encore Eugénie Columeau qui trouve, de Paris, qui trouve que pour une fois qu'on a un film sans violence, sans vulgarité, sans sexe et sans pathos, on ne va pas se plaindre. C'est un film sympatoche, comme dirait Pierre Murat. Ou encore ce confrère du Figaro qui s'appelle Quentin Périnel. Cher masque, pourquoi cette haine contre le mystère Henri Pic? Il y a quelques scènes très drôles, un Lucchini excellent, une petite histoire qui se déguste. Alors là, c'est comme un Quignaman, C'est un peu gras, hein, mais bon, petit plaisir coupable mais agréable qui ne valait pas sans doute tous vos sarcasmes. Allez, on commence avec le retour toujours attendu de Xavier Dolan avec Ma vie, avec John Donovan, son 7e film avec Kit Harington, Jacob Tremblay, Nathalie Portman dans le rôle de la mère, Suzanne Sarandon, Kathy Bates, c'est sans Jessica Chastain pour ceux qui comprendront. Rupert, c'est donc Jacob Tremblay, jeune acteur gay qui se souvient avoir entretenu quand il avait 11 ans. Il était quand même précoce, hein, le gamin. Une correspondance avec John Donovan, incarné donc par Kit Harington, vedette de série télé, aujourd'hui disparue, qui cachait son homosexualité. Correspondance que Rupert décide de publier en s'expliquant lors d'une interview à la télé, qui va évidemment être le prétexte à de longs flashbacks. Il y a tous les thèmes de Dolan, la relation mère-fils, l'homosexualité, l'enfance. Le film d'ailleurs est un peu une mise en abîme. Et je rappelle quand même, pour ceux qui ne le sauraient pas, qu'à 8 ans, Dolan a envoyé une lettre à DiCaprio, mais qu'elle est restée sans réponse. Pierrot ?
Ben, je trouve ça très bien. Je trouve, c'est peut-être pas son meilleur. Ben, j'ai passé mon temps en voyant le film en disant, je devrais peut-être pas totalement aimer ça parce qu'il y a beaucoup de tics de caméra.
J'étais sûr que tu n'aimerais pas.
Non, parce que
je suis surpris.
Si, c'est parce que il filme, par exemple, beaucoup avec des gros plans. C'est vrai que ça devient un peu agaçant à certains moments. Et en même temps, bon. Il y a des tics de Dolan quand, par exemple, le gamin retrouve sa mère ralentie, à la Lelouch, il se jette dans les bras d'un autre. Et je me disais en même temps que tous ces petits tics dont il n'arrive pas à se défaire, je lui pardonne volontiers parce qu'il y a un sens du romanesque que je trouve de plus en plus rare dans le cinéma. C'est-à-dire que il s'en fout, il mêle des histoires, il mêle le passé et le présent, il invente des choses de sa vie qu'il rend très émouvante.
C'est-à-dire que il se raconte beaucoup aussi. Quand
il
même.
Se raconte beaucoup.
Tu dis pas l'essentiel.
Oui,
mais c'est aussi beaucoup sur lui.
Actuellement, rares sont les cinéastes qui acceptent le romanesque. Et lui le fait avec une espèce de bonne foi, d'enthousiasme. Ce qui fait que finalement, tous les petits défauts de style qu'on ne peut pas ne pas remarquer s'effacent devant sa sincérité, son enthousiasme et ce qu'il dit. Parce que rappelez quand même que des carrières de jeunes acteurs ont été brisées à Hollywood parce qu'ils n'arrivaient pas à assumer l'homosexualité. Oui, enfin, il le dit et il le montre relativement
c'est
bien.
C'est pas un scoop.
C'est pas un scoop. Enfin, il faut de temps à autre le dire. Et je trouve que son acteur principal, Kit Harington, est vraiment très bien.
Daniel ?
Alors bon, c'est effectivement, il faut quand même préciser que c'est son premier film en anglais, donc effectivement c'est intéressant de voir comment il rentre dans le cinéma américain d'une certaine façon. Alors c'est brillant et tellement narcissique, et c'est vraiment, moi, je personnellement, Xavier Dolan, si vous comprenez pas que je suis là tout en n'étant pas là, mais si, je suis là aussi, donc c'est assez irritant comme il est. Il y a quand même, les mères, il a quand même un casting absolument extraordinaire, et on peut dire que Jessica Chastain est au générique, sauf qu'elle n'est pas dans le film parce qu'elle a été coupée au montage. C'est dommage.
Voilà. Bon, c'est pour ça que je la citais en préambule.
Voilà. Mais quand même, il y a les mères du film, c'est Nathalie Portman et Suzanne Sarandon. Donc vraiment, il y a. Et donc moi, j'ai pensé à son tout premier film, qui pour moi est pratiquement le meilleur, qui est J'ai tué ma mère. Et donc il y a là les rapports entre les fils et les mères qui sont touchants, qui sont émouvants. Bon, sinon c'est extraordinairement narcissique une fois de plus.
Nicolas,
je rejoins un peu ce qui a été dit. La chose, c'est que effectivement, c'est son premier film américain avec des stars américaines, qu'il y a à la fois un côté menu best-of Dolan où il essaie d'en mettre beaucoup et de mettre tout, et à cela s'ajoute la volonté de faire un pur film américain des années 90, c'est-à-dire que la référence vraiment, elle est explicite, c'est Magnolia, et cette espèce de double couche fait qu'effectivement il y a des débordements, un peu lelouchien, il en fait un peu trop, parfois c'est même un peu sursignifiant et démonstratif, et en même temps à côté, je trouve qu'il y a une vérité qui se dégage du film à la fois sur la peinture du système hollywoodien, de la manière dont justement, sous couvert de libéralisme et d'esprit ouvert, Hollywood quand même continue de nier l'homosexualité de stars. Il y a quand même une justesse et y a une charge contre Hollywood et une justesse sur le rapport à la célébrité que je trouve très fort. Et ça reste, je trouve, un film, pour moi, un des films les plus stimulants de la semaine. Donc, c'est pas mon Dolan préféré, mais
il y a... Ah oui, c'est plus stimulant que Sunset, ça c'est sûr. Jean-Marc.
Moi, c'est quasiment mon Dolan préféré, en tout cas un des deux ou trois préférés. Ouais, je trouve ça vraiment très beau. J'aime beaucoup les films de Dolan, mais parfois, sur certains films, je trouvais qu'il y avait quelque chose de trop autoritaire dans la façon dont il commandait les émotions du spectateur, quelque chose d'un peu manipulateur. Et là, je trouve que c'est pas du tout le cas. Je trouve, au contraire, que c'est un film très subtil, très ouvert, assez mystérieux. Je trouve que le feuilleté temporel très élaboré du film le libère de ce côté parfois machine de guerre à provoquer l'émotion qu'a son cinéma, qui a quelque chose de presque gazeux dans la forme du film, très évanescent, qui moi me touche beaucoup. Et je trouve pas ça si narcissique que ça, parce que c'est le portrait de celui qui n'est pas devenu. C'est-à-dire qu'on pourrait penser au départ que c'est l'enfance de Xavier Dolan, sauf que, je ne l'ai pas révélé en quoi, mais l'itinéraire du personnage est le contraire de ce qu'est devenu Xavier Dolan. Il y a quelque chose de très très beau, très émouvant dans cette manière de se peindre, précisément de rêver au jeune homme que finalement il n'est pas devenu du tout. Et donc il y a l'expression d'une blessure intime là-dedans que je trouve très très belle.
Et la transmission qui est très belle aussi entre un enfant et comment un enfant apprend en voyant son idole tomber.
Clairement, ce que dit le
il faut quand même dire un mot de l'extraordinaire petit garçon qui joue, qui est génial. Jacob Tremblay, qui est quand même tout à fait génial.
Ma vie avec John Donovan, le film de Xavier Dolan. Est-ce qu'il y a des réactions sur ce film dans le public? Non. On y vient à Sunset, 4 ans après Le Fils de Saul, qui lui a quand même valu le Grand Prix à Cannes. Et même un Oscar, le Hongrois Laszlo Nemes signe donc Sunset, un film historique de 2h20.
T'es une.
Pardon ?
2h21.
Ben, je sais.
J'ai compté.
Mais j'ai dû m'endormir un peu avant la fin. Avec Julie Jacab, Vlad Ivanov, Evelyne Dobos, un film où Nemes utilise exactement le même procédé que dans Saul, donc caméra subjective, plan serré, arrière-plan flou. Et pour le spectateur, une expérience sensorielle au mieux inédite, au pire étouffante. Ici, on est en 1913, au cœur de l'Empire austro-hongrois, la veille de la Première Guerre mondiale. Iris, une jeune femme qui a passé son enfance dans un orphelinat, revient à Budapest où elle espère trouver un emploi dans le magasin de chapeaux que tenaient autrefois ses parents. Et donc commence pour Iris une enquête sur ses origines, sur un frère dont elle ne sait rien, sur ses parents disparus dans un incendie criminel. Et puis plus Iris avance, plus les obstacles se dressent sur son chemin, plus le spectateur est épuisé. Et à la fin, il faut dire la vérité, je le dis parce que j'avais beaucoup aimé Le Fils de Saul, enfin qui m'avait en tout cas beaucoup touché. À la fin, c'est un calvaire, quoi. C'est un calvaire. Alors, je sais que Jean-Marc, pour des raisons inavouables, a réussi à ne pas le voir.
Je suis assez fier. Hein
Nicolas.
Bah oui, j'en veux beaucoup à Laszlo Nemes, parce qu'effectivement, je trouve que dans Le Fils de Saul, il avait réussi à trouver une forme pour un sujet impossible et à réussir un thriller, un survival à Auschwitz qui justement ne montrait pas et en même temps disait tout. Et c'était assez, alors c'était asphyxiant, c'était
même à la limite du supportable, mais voilà. Pour des raisons autres.
Et moi, je pensais qu'il avait eu l'intelligence de trouver cette forme et de l'appliquer par rapport au sujet. Et en fait, non, d'une certaine manière, ce film, moi, j'ai l'impression qu'il a trouvé un système qui va peut-être être maintenant à l'avenir son cinéma. Et là, je trouve que le système s'applique pas du tout au sujet. C'est-à-dire que cette époque est absolument passionnante. C'est-à-dire effectivement, c'est l'avant Première Guerre mondiale, c'est la fin d'un monde, d'une aristocratie. On a envie de plonger là-dedans.
On s'en fout, quoi.
Et il ne fait que louvoyer, suivre. Alors pendant une demi-heure, on se dit tiens, voilà, il va y avoir un mystère. On va comprendre les tenants, les aboutissants de tout ça. Et puis au bout de 2h20, on attend encore. Et surtout, ce qui est terrible, c'est que tous les effets sont voyants, ce système est très artificiel, et il ne cesse de repousser le moment où, en fait, il n'y aura pas de révélation, et le film est désarmant d'impuissance face au sujet, face à un sujet qui était vraiment passionnant, et j'en viens à avoir presque envie de revoir Le Fils de Saul pour, c'est ça qui est terrible, c'est qu'on a presque envie de réévaluer le film d'avant qui était vraiment
pourquoi? Parce que ça n'a rien à voir.
Ça n'a rien à voir, mais on commence à douter presque de la pertinence de son cinéma, quoi.
Daniel.
Alors, c'est vrai que Le Fils de Saul, j'étais tellement tétanisé lorsque j'ai vu ce film et je devais écrire et j'étais intimidée par ce que ce film contenait de force et d'horreur Et j'ai demandé, avant d'écrire, j'ai demandé l'imprimatur de Claude Lanzmann. J'ai appelé Claude
Lanzmann. Oui, parce qu'il faut dire, il faut rappeler que feu Claude Lanzmann, qui ne supportait pas que d'autres filment
ce sujet. Non, c'est-à-dire qu'il avait beaucoup critiqué la liste de Schindler, évidemment.
Là, apportait ce film au nu.
Voilà, et donc je l'avais appelé au téléphone, je lui ai dit, j'arrive pas à écrire. Il m'a dit, si, écris. Et donc, voilà. Et donc, effectivement, on attendait tous le deuxième film de Lars von Trier. Alors, c'est vrai que c'est absolument sidérant, parce que c'est exactement le même dispositif.
Même procédé.
Mais exactement, sauf que là, l'héroïne, Iris, cette jeune femme absolument ravissante d'ailleurs, qu'on ne quitte pas une seconde, la caméra ne la quitte pas une seconde, et elle a une expression très contrariée, et croyez-moi, il y a de quoi.
Ah oui,
enfin,
voilà.
Bon, donc c'est absolument étouffant. Alors, la chute de l'Empire austro-hongrois, la Seconde Guerre mondiale qui s'avance, évidemment, c'est un énorme sujet, et c'est ça dans le frou-frou des chapeaux à plumes. Enfin, je veux dire, ça n'a pas de sens. C'est très très ennuyeux. C'est une grande déception.
Pierre,
ben moi, je suis pas déçu parce que je dois dire que le fils de Saul. J'avais été extrêmement gêné par le film, c'est-à-dire que j'avais perçu que cette espèce de technique absolument magnifique, mais qu'on retrouve là, était déjà fausse. J'avais été horriblement gêné par le fils de Saul, donc je trouve en effet que là, c'est pas que c'est pire, vu le sujet, mais la technique était exactement la même, c'est-à-dire une technique faite. Alors c'est un monsieur qui est très 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 doué et savant, parce que en fait, si on examine chaque plan, il y a un plan. Bon, il y a la fille au premier plan. Puis alors il y a.
Mais on ne dit pas qu'il est. Enfin, aucun de nous ne dit qu'il n'est pas doué. Hein.
Non. Mais il est. Oui, il est
on
doué.
Dit juste que c'est pas supportable.
Non, mais c'est ce que je suis d'accord avec vous, c'est-à-dire qu'il est très doué dans la mesure où chaque plan est construit. On voit bien le storyboard. C'est dessiné, il y a quatre figurants qui passent, des chevaux, etc. C'est absolument magnifique. Mais c'est tellement inutile, tellement froid et tellement sophistiqué, et une sophistication inutile. Mais elle était déjà parfaitement visible dans le premier.
Non, dans le premier, il y avait une déshumanisation du personnage et de ce qu'il y avait autour. Il y avait vraiment une cohérence dans
Excuse-moi. Pour moi,
alors que là, il y a presque un académisme même dans la manière dont il dirige les acteurs derrière. Il n'y avait pas d'académisme dans le
deuxième. Je n'ai pas aimé le premier et je n'aime pas du tout le deuxième parce que, en effet, c'est un système. C'est un des réalisateurs les plus prétentieux que je connaisse. Ça, c'était déjà visible dans le premier. Et ça
pourtant, il y a de la concurrence. Sunset, oui. Donc, c'est Laszlo Nemes. Oui, une réaction sur ce film. Le micro vient vers vous. Bonsoir.
Bonsoir. Je voudrais rappeler que ce film, il avait l'intention de le faire avant Le Fils de Saul. Donc, sa technique, on aime ou on n'aime pas. Bon, moi, je l'adore. J'ai passé un très grand
Vous parlez
moment.
De Sunset.
Oui, absolument. Moi, je trouve formidable le fait que... on est avec cette fille qui recherche quelque chose, qui recherche son frère, etc. Et on sent qu'on va vers le chaos, c'est les prémices de la Première Guerre mondiale. Et ça, je trouve qu'on est toujours derrière elle. C'est faux de dire qu'on ne voit que elle, ça c'est absolument faux. Il y a beaucoup de plans sur plein d'autres acteurs, ce qui n'était pas le cas du fils de Stoll, on sait pourquoi. Et je pense que c'est un futur grand réalisateur.
Merci.
Au même titre que Terrence Malick, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais il y a du style. Voilà.
Merci monsieur pour votre intervention. C'est tout sur ce film. Très différent du Sunset. C'est Convoi exceptionnel, comédie, comment dire, non identifiée, du vétéran Bertrand Blier, dont c'est le 20e film, avec Christian Clavier et Gérard Depardieu, autrement dit Astérix et Obélix. Il y a aussi Audrey Dana, il y a aussi Alexandra Lamy, il y a aussi Alex Lutz, il y a aussi Sylvie Testu et quelques autres. Clavier, c'est Foster, un Bourges bien sapé. Taupin, c'est Depardieu, déclassé Tony Truant, qui avoue « j'ai beaucoup merdé ». Les deux doivent aller commettre un meurtre, mais pourquoi, demande Depardieu ? Parce que c'est écrit dans le scénario, répond Clavier, on dirait les Vladimir et Estragon de Beckett, mais enrôlés dans les tontons flingueurs. Le principe étant que les pages modifiées du scénario leur arrivent chaque jour sur le tournage. Alors évidemment, on retrouve Blier dans certains dialogues, dans des mots d'auteur, même dans un certain goût de l'absurde. La vraie question, c'est que passer la première demi-heure, et la surprise qui va avec la première demi-heure, est-ce que ça fait un film ? Eh bien, c'est la question que je vous pose. Tu l'as vu, Jean-Marc ?
Oui, je l'ai vu, celui-là. Tu dis que c'est non identifié. Moi, je trouve que c'est beaucoup trop identifiable, au contraire. C'est-à-dire qu'au bout de 5 minutes, on est quasiment asphyxié tellement tout est familier et tout donne une impression de répétition. On a vraiment le sentiment de voir le remake totalement essoré de 15 films d'oubliés qu'on aurait vu avant. Et à un moment donné, je me suis dit, j'étais tellement embarrassé par ce sentiment de retrouver à l'identique des choses que je connais très bien, mais dans une forme totalement calcifiée, que je me disais, qu'est-ce que pourrait penser quelqu'un qui n'aurait jamais vu un film de Bertrand Blier ? Est-ce qu'il serait quand même séduit par cette bizarrerie ? Je suis même pas sûr, parce que j'ai le sentiment que ce cinéma-là, aujourd'hui, d'autres cinéastes le font mieux. C'est-à-dire que Quentin Dupieux, à mon avis, qui, comme Blier, est un héritier de Louis Buñuel, a une dinguerie qui est moins routinière que celle de Blier aujourd'hui. Et je pense que ce que cherche Blier, à savoir l'étrangeté, ça ne se produit pas avec un système autant en place, des ficelles aussi répétitives. C'est-à-dire qu'on peut pas être étrange et routinier. C'est vraiment antinomique.
Mais quand je disais non identifié, c'est qu'on sent la cohérence incohérente de Blier, ouais, pendant 20 minutes. Mmh. Et après, on voit qu'il n'arrive pas. Il n'y a pas de quoi faire un film, Pierre.
Non, mais la grande faiblesse de Bertrand Blier, ça a toujours été ça. Je commence par la faiblesse pour aller vers la qualité.
Le début des Côtelettes, c'était formidable.
Oui.
Je suis venu pour vous faire chier.
Oui, non, mais oui, c'est ça.
Bouquet,
mais
puis après,
mais il ne sait jamais, ou pratiquement jamais, comment terminer, je trouve, personnellement. Tenue de soirée, par exemple, la fin de Tenue de soirée, c'est n'importe quoi. Ils se retrouvent tous sur le trottoir, mais personne ne sait comment, alors que le film, pendant une heure, tient la route magnifiquement. Moi, je trouve très sévère, parce que moi, j'ai marché absolument de la première. Alors, c'est un film très court, d'ailleurs,
hein, il fait 1h20.
1h20, à peine. Ouais. Non, mais à preuve de ce que je dis, c'est que il commence un nouveau film au bout d'une heure dix avec un autre film. Clavier Depardieu change de rôle et il commence un autre film parce que visiblement il doit se dire 1h10, ça va pas le faire, donc il fait 1h20. Mais toute l'heure dix est absolument formidable. Je trouve que c'est Beckett, tu l'as dit, mais des dialogues absolument magnifiques. Mais on peut pas reprocher à Blier de faire du Blier. On peut éventuellement dire il le fait moins bien qu'avant. Mais dans le système qui est le sien, par exemple, le petit monologue d'Alexandra Lamy qui brusquement apostrophe Clavier, il est magistralement écrit et très bien filmé. C'est pas uniquement des dialogues. Je trouve qu'il y a un sens du burlesque, de l'émotion avec la chanson du film Quai des Orfèvres qui arrive là. Moi, je marche. Je trouve que un type qui sait encore faire des dialogues comme ça et mettre en scène des acteurs comme ça, eh ben, moi, j'en redemande.
Tu me surprendras toujours, Pierre. Daniel.
Eh bien, je continuerai à vous surprendre parce que j'ai été absolument émue, bouleversée par ce film. Parce que ce film incohérent, ce film avec des pages volantes où on écrit le film de sa vie et qu'on connaît pas, c'est Bertrand Blier 10 ans après qui a mis 10 ans à refaire un film. C'est à la fois sa propre vie. J'ai trouvé ça absolument émouvant. Voilà, profondément émouvant. Et en plus, j'y ai retrouvé Gérard Depardieu. C'est-à-dire que tout à coup, voilà, il m'était revenu, comme chantait Barbara, c'est-à-dire un peu, pas beaucoup, mais un peu amaigri et de nouveau présent.
Non, c'est faux.
Et voilà, et ce couple de comédie, effectivement, Gérard Depardieu et Clavier. Et je les trouve absolument touchants et je trouve ce film bouleversant.
Nicolas.
Moins. Le problème, c'est que c'est pas tant que ce soit en roue libre, c'est que ce soit même en cercle fermé. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression qu'il est enfermé dans son univers, qu'il radote. J'ai l'impression de voir deux acteurs en quête d'un film et un auteur qui radote tout seul dans son coin. Et alors, effectivement, il y a la musique des dialogues qui est toujours là. Et je trouve dommage que Clavier n'ait pas rencontré Blier avant parce que je trouve que Clavier est bien. Je trouve dommage qu'il n'ait pas eu un meilleur texte de Blier à dire. Mais après, c'est quand même, c'est pas qu'on voit exceptionnel. C'est qu'on voit Funéraire, on est vraiment dans un. J'ai l'impression qu'il est vraiment enfermé. Alors, c'est toujours les mêmes obsessions. Et j'ai l'impression que la seule manière d'apprécier le film, c'est presque d'être atteint des symptômes d'Alzheimer, c'est-à-dire d'oublier toutes les 10 minutes
Merci
ce qu'on vient
beaucoup.
De voir. Non, mais vraiment, il y a quelque chose comme ça. Non, mais le film se répète tellement en boucle, j'ai l'impression qu'il faut, il faudrait, à toutes les quarts d'heure, avoir oublié ce qu'on vient de voir.
C'est comme la
Zette.
C'est le scénario.
Pour avoir une chance d'apprécier le film. Oui, mais à un moment, ça tourne à vide.
C'est uniquement pour arriver à faire 1h20.
Voilà. C'est. Alors, à la fin, la discussion autour de comment on cuit le poulet, le lapin du gâtinais.
J'ai oublié de dire qu'il y a quelque chose qu'on ne révélera pas qui se passe pendant qu'il cuisine.
Oui, c'est bouleversant. Non, il y a quand même un regard aussi, un peu daté et ses obsessions,
tu peux le dire parce que c'est vrai.
Oui, ses obsessions un peu misogynes parfois. Et moi, ça, ça pourrait être touchant, et là, ça commence à être embarrassant parce qu'il s'y complaît un peu trop, quoi.
Là-dessus, il y a une aigreur dans le film.
Voilà, il y a quelque chose, il y a une complaisance qui est gênante, avec quelques brefs moments de grâce, effectivement, mais alors vraiment très très bref.
Hein. Une aigreur pas seulement contre les femmes à ce moment-là, contre les êtres humains à ce moment-là.
Oui, enfin.
Ah oui.
Soit les hommes, soit finissent par suicider ou par tuer leurs femmes.
Si vous voulez aller voir. Écoutez, Daniel et Pierre, allez voir qu'on voit exceptionnel. Alors, on va passer à Rebelle, un film d'Alain Mauduit avec Cécile de France, Yolande Moreau, Audrey Lamy, qui pourrait presque être un thème à la Blier d'autrefois au début. Alors, Cécile de France, elle éprouve un choc, et donc c'est Sandra dans le film, puisque cette ancienne Miss Nord-Pas-de-Calais revient au pays avec des cocards et pas de boulot, et elle se fait embaucher dans la conserverie locale de sardines où bosse à la chaîne Marilyn, c'est donc Audrey Lamy, Nadine, c'est Yolande Moreau, et Sandra doit en plus repousser les avances de son chef de service, manque de peau. La scène est pénible, hein, je dis, pour les hommes, elle lui coupe le zizi, mais elle le fait vraiment bien, et j'étais étonné, le zizi continue à courir, là.
Par inadvertance, quand même.
Oui, mais enfin, moi, je te parle du zizi, là, je te parle pas de... Non, mais la scène est brutale.
J'ai jamais essayé, je peux pas.
Non, mais je sais bien. D'ailleurs, il en meurt, hein, le chef de service. Coup de chance, dans le casier, donc, de la victime, les trois rebelles trouvent un sac de billets qu'elles se partagent en croyant qu'elles ont touché le loto. Mais c'est compté sans le personnage que joue Simon Abkarian, qui est très attaché à cet argent sale, le mot est faible, puisque c'est l'argent de la drogue. Bah, c'est une comédie sociale version Groland, avec un vrai trio de pétroleuses, et en prime Béatrice Agenin, dans le rôle très exténué de la mère de Sandra. Ça, Pierre, alors, t'as aimé ça?
Je ne l'ai pas vu.
Ah, tu ne l'as pas vu?
Mais non, je ne l'ai pas vu.
Nicolas?
Je suis pas trop, c'est sur ça d'un mauvais goût, très commun.
Hein.
Comment?
T'as eu mal?
J'ai eu plus mal aux yeux. et non, mais je trouve que en même temps, on n'a pas envie de détester ça. En même temps, c'est quand même pas très. C'est d'un mauvais goût. Je trouve trop commun. Pour réussir ce genre de film, faut vraiment avoir du style. Faut avoir de la gouaille. Faut une écriture. Faut avoir même un sens dans la mise en scène du décalage. Là, je trouve ça encore un peu trop sage. Moi, ça me rappelle un peu le cinéma Je sais pas si on se souvient des films de Bernie Bonvoisin des années 90, qui avait fait Les Démons de Jésus, qui était peut-être son meilleur film. Et après, c'est vraiment parti en vrille. Il y a une forme de folie chez les personnages, mais très ancrée dans un univers prolétaire, on va dire, et il arrivait à trouver un sel dans cet univers-là. Là, je trouve que le film...
On est loin de Petit Quinquin, par exemple, de Dumont.
Et alors, et puis après, à côté, les petites références. Alors, il y a un morceau qui vient d'un Tarantino, mais une version belge ou néerlandaise de Bang Bang pour faire un clin d'œil à Kill Bill. C'est quand même très peu tarantinesque en termes de virtuosité et de richesse de cinéma. Après, bon, moi, je trouve que Yolande Moreau s'en sort bien. Abkarian, je le trouve assez touchant, mais vraiment, c'est pour essayer de trouver du... Je trouve ça quand même assez plat et pas d'une grande folie, quoi. La folie, j'attends la folie pendant tout le film et je la trouve peu.
Daniel.
Oui, évidemment, il y a un début qui est une petite folie, parce que c'est vrai que de voir un zizi coupé sur le carrelage, c'est pas courant. Mais je veux dire, c'est quand même extraordinairement lourdingue. C'est bon, on a envie d'avoir une énorme sympathie pour ces pétroleuses malgré elles. On apprend, moi je sais maintenant comment on rentre des filets de maquereau dans les boîtes. Mais
c'est
enfin,
des maquereaux. J'ai dit sardines, mais c'est maquereau, je crois.
Non, c'est des filets de maquereau. Je te jure, c'est des filets de maquereau. Oui, enfin, je sais comment on range des filets de maquereau dans les boîtes.
Bah oui, bon,
mais
les range.
C'est évidemment que ça peut servir. Mais je comprends tout à fait le propos, c'est-à-dire la sympathie qu'on doit éprouver pour ces braqueuses malgré elles. Mais ça manque terriblement de finesse. Et même ces trois actrices qu'on aime, elles sont pas si bien servies que ça. Et Yolande Moreau, qui est une de mes idoles, même elle, je veux dire, elle peut pas déployer son talent. Cécile de France, ex-Miss Pas-de-Calais, oui, certes, voilà. Mais on sent qu'il y a le potentiel d'un film, en effet, à la fois drôle quelquefois et social. Et ça rate un peu sa cible parce que c'est trop lourdingue.
Abkarian est bien.
Oui, bien.
Dans un rôle
de mafieux assez subtil.
Jean-Marc.
Oui.
Il y a vraiment quelque chose de très paradoxal entre la volonté d'être perçue comme féministe du film et le fait que les trois personnages féminins sont d'une absence de complexité sidérante. C'est-à-dire que le film dit qu'on peut être, on est soit la sexy, soit la drôle, soit celle qui est émouvante et poétique. Donc soit Cécile de France, soit Audrey Lamy, soit Yolande Moreau. Et jamais les trois à la fois. Ce qui est quand même finalement assez contre-productif, je trouve, comme discours. Après, on pense effectivement un peu à Tarantino, mais plus à Boulevard de la Mort, qui est un film génial, sur la révolte violente de personnages féminins contre la domination masculine. Et donc, ça serait Boulevard de la Mort sans la folie Tarantino, sans son sens de la mise en scène et sans sa complexité dans la vision du monde. Donc, il reste une espèce de film un peu trashouille, en même temps assez aseptisé, sans beaucoup de cinéma, avec une certaine habileté scénaristique.
Et avec un épilogue très attendu. Hein.
Ouais,
et puis, très laid aussi, moi, cette espèce de filtre. On a l'impression qu'il y a un filtre vert.
Un filtre vert ?
Ah oui, oui, c'est tout verdâtre, tout est contrasté. Enfin, il y a vraiment une image vidéo que je trouve assez laide. Et puis, alors,
tu l'as vu en salle ?
Les dialogues, oui.
Non, pas dans un aquarium, pas.
Ah, peut-être qu'il y avait effectivement. C'était le grand aquarium de Paris.
Rebelle d'Alan Mauduit, des réactions ? Non, ici. Dernier amour de Benoît Jacquot, le réalisateur des Adieux à la Reine, avec Vincent Lindon et Stacy Martin. Sur le plus cuisant échec amoureux de Casanova, le film, selon un procédé, il faut dire totalement éculé, commence donc par la fin. Casanova est vieux, il tient la bibliothèque du château de Dux en Bohême, et il raconte à une jeunesse l'humiliation qu'il a connue à Londres en 1763. On va donc assister à un flashback en gros de 90 minutes. Quand il débarque en Angleterre, Casanova a 38 ans, et il tombe fou amoureux d'une prostituée, La Charpillon, qui est donc jouée par Stacy Martin, d'abord parce qu'elle lui plaît, puis ensuite parce qu'elle lui résiste, et plus évidemment elle se joue de lui, plus il veut la conquérir. Une mésaventure qui a failli le pousser au suicide, puisqu'on le voit à la fin du film, enfin c'est une des scènes, vouloir se jeter du haut d'un pont. Tout ça, il le raconte dans Histoire de ma vie. Casanova, c'est Vincent Lindon. Il faut dire que ses rôles précédents de chômeur ou de leader syndical chez Brisé ne prédisposaient pas totalement à porter la perruque et à jouer le séducteur poudré. Ça dure 1h38. Alors, est-ce que vous avez été séduit et par Lindon et par le film ? C'est la question que je vous pose. Daniel ?
Pouf ! Non, c'est très curieux parce qu'un film sur le désir qui manque tellement de sensualité, tellement de chair, que c'en est étonnant.
Même Stacy Martin.
Mais oui, mais bon, que jolie, mignonne, voilà. Bon, mais il n'y a pas de chair, il n'y a pas de sensualité. Donc c'est le contraire même de ce que ce film veut démontrer et veut nous montrer. Il y a quelque chose de mort, de morne, et qui est très étonnant. Bon, voilà.
Avec une image très noire, pour le coup, très gris noir.
Oui, hein. Oui, voilà. Alors, évidemment, Vincent Lindon. Casanova, alors qui n'a pas joué Casanova ? Bon, Donald Sutherland, bien arrangé par Fellini, mais aussi Alain Delon. Enfin bon, il y a eu 15 Casanova. Oui, 15.
Ah non, vous n'allez pas faire la liste. Hein.
Non, 15 Casanova avant lui. Et donc, pourquoi pas ? Mais c'est presque embarrassant, parce que, si, croyez-moi, je suis Casanova. Oui, bien sûr, en général, je suis chômeur. Mais bon, mais là, je suis Casanova, j'y crois. Et c'est quand même la cinquième fois qu'il travaille avec Benoît Jacquot. Donc, effectivement, on peut considérer que c'était pas une si mauvaise signe que ça. Sauf qu'il est comme invité dans ce film-là, sans y être vraiment...
Dans le dossier de presse, Jacquot explique qu'il n'était pas totalement favorable à Lindon. C'est Lindon qui a insisté avoir ce rôle.
Alors, effectivement, il est affublé d'une perruque, d'une laideur effrayante qu'il arrache le plus souvent possible. Mais enfin, c'est carrément, il a une méduse morte sur la tête. Enfin,
Il y a des scènes, on dirait un peu Lady Gaga.
Mais c'est très curieux, quand même. Bon, donc, effectivement, c'est un film morne sur la chair désirée. Et donc, ça va contre son objet.
Pierre ?
Moi, j'aime beaucoup ça. Je trouve que c'est le meilleur film de Benoît Jacquot depuis pas mal d'années. D'abord, il y a une photo absolument sublime, je trouve, de Christophe Bocarne, qui est absolument magnifique. Mais moi, ce qui me plaît dans le film, c'est que c'est pas sur le désir, c'est sur l'amour, c'est pas dernier amour pour moi, c'est premier amour qu'il faudrait presque dire. Parce que ce que je trouve très très beau, c'est peut-être un thème qui me touche beaucoup, mais c'est c'est le libertin justement, où quelqu'un, Michel Deville avait fait des tas de films là-dessus, comme Adorable menteuse ou à cause d'une femme, mais plein de cinéastes se sont intéressés au moment où quelqu'un brusquement qui séduit, découvre justement le sentiment amoureux.
Et c'est ça. C'est pas ça. C'est parce qu'elle lui résiste qu'il le découvre.
Ben oui, bien sûr, ça c'est classique.
C'est parce qu'elle se moque de lui.
Oui, bien sûr. Mais en même temps, justement, incompréhensiblement, il éprouve quelque chose qu'il n'a pas éprouvé avant.
Non, il l'éprouve parce qu'elle lui résiste, justement. C'est ce que je me tue à t'expliquer.
Oui. Non, bien sûr que c'est un jeu comme ça. Mais il est amoureux pour la première fois. Et c'est ça que je trouve. Mais si, il est amoureux. Et justement, c'est ça qui fait la beauté du film. Et en même temps, ce que j'aime bien, c'est qu'il se permet quelques petites allusions comme ça sur quelques. Il rend quelques hommages. Par exemple, la maquerelle, enfin, la mère et la fille qui exploitent Casanova, bah, ça rappelle un tout petit peu le duo.
Elle exploite la charpillon, pas.
La charpillon, oui.
Non, mais tu dis, elle exploite Casanova. Non, elle exploite pas Casanova.
Oui, enfin, elle se joue de lui, elle se moque de lui, exactement un peu comme le duo des Dames du Bois de Boulogne. Enfin, je trouve qu'il y a des tas d'allusions, je trouve qu'il y a une mise en scène très belle, très forte, et surtout ce sentiment vrai me touche beaucoup.
Bien, c'est ton droit. Nicolas ?
Je comprends ce que dit Pierre, parce qu'effectivement, c'est ce que veut être le film, c'est ça de découvrir de l'amour. Moi, ce qui m'intéresse dans le film, c'est plutôt la manière dont il filme, et surtout la première partie, l'oisiveté assez mortifère de cette aristocratie, et le regard assez concupiscent de ces hommes, et je trouve qu'il y a quelque chose d'assez, presque, de fin d'un monde, qui renvoie presque à aujourd'hui, qui est assez contemporain, et qui est assez beau, et qui passe aussi par le travail sur la lumière et tout ça. Enfin, je trouve, il filme quelque chose d'assez beau, de fin d'un monde. Après, ce que veut être le film après, effectivement, c'est ce jeu avec cette jeune femme qui se joue de lui et cette découverte de l'amour, effectivement. Et ça, je trouve que c'est moins réussi parce que le scénario, je le trouve un petit peu répétitif et un peu problématique. Enfin, je trouve vraiment que ça tourne un peu à vide au bout d'un moment et que ce côté labyrinthique, on le sent pas vraiment et qu'il y a des moments où ça sent le trafiquer. Et c'est là où j'ai un problème avec Vincent Lindon. C'est-à-dire que on passe notre temps à reprocher aux acteurs de pas essayer de changer de registre. Là, on peut pas reprocher à Lindon de pas s'aventurer ailleurs. Mais il y a un moment, il y a une limite entre ce que veut un acteur et ce qu'il peu, et moi j'ai un problème, je ne vois pas l'amour naître en lui, je vois un rock, je vois le Lindon comme ça un peu massif, et c'est comme à un moment on peut pas demander à Jean Gabin de jouer Karl Lagerfeld quoi, donc il y a quelque chose comme ça où il y a quelque chose qui bloque encore moi, je trouve dans le encore. Et c'est même pas qu'il est mauvais, c'est vraiment une limite, une vraie limite d'incarnation.
Mais il aurait pleuré, tout le monde aurait dit ah c'est lacrymal et tout, non mais c'est la découverte de le sentiment amoureux et la terreur qu'il en éprouve, et ben cette terreur là on le lit sur Vincent Lindon.
Je trouve que le film, voilà.
C'est Jean-Marc. C'est-à-dire que pour filmer le crépuscule, il faut aussi être capable d'incarner la lumière. Chez Visconti, il y a les deux. Absolument. C'est-à-dire que c'est déchirant parce qu'il incarne vraiment ce monde et puis il engloutit en même temps. Alors que là, on a l'impression qu'ils sont déjà tous morts dès le début, que le désir est déjà parti. Enfin, et du coup, pendant une heure et demie, ça passe vraiment. Oui, mais du coup, on voit pas l'effondrement. On voit juste des gens. Tout est déjà par terre, quoi. C'est quand même très faiblement expressif à ce niveau-là, tu vois. J'ai l'impression que tout est déjà joué dès le début.
Et puis on n'a pas follement non plus l'impression d'être dans le Londres de 1763 si on veut jouer jusqu'au bout moi je sentais vraiment les décors quoi de Brie-sur-Marne. Mais bon, dernier amour de Benoît Jacquot, des réactions peut-être sur ce film, non ? Eh bien nous passons à Mon bébé de Lisa Azuelos, réalisatrice de LOL de Dalida, avec Sandrine Kiberlin, Thaïs Alessandrin, Yvan Attal, Patrick Chenet, Victor Belmondo. Et Sandrine Kiberlin, c'est Héloïse, elle a 3 enfants, 2 aînés qui vivent leur vie. Et puis la dernière, Jade, 18 ans, donc cette petite Thaïs Alessandrin, qui s'apprête, après son bachot, à aller faire ses études au Canada. Un projet qui stresse beaucoup, beaucoup, maman, dont les relations avec sa fille, avec son bébé, donc, sont fusionnelles. Et donc, elle décide de filmer avec son iPhone les derniers instants qu'elles vont passer ensemble. Voilà, dans le genre feel good, c'est presque une sorte de prototype. Ça dure 1h27, Jean-Marc.
Moi, j'ai eu la surprise de trouver ça pas mal. Je m'y attendais pas.
Décidément, ce soir, je pense que cette émission va totalement m'échapper. Parce que ne comprends rien à vos goûts, aux uns et aux autres.
Moi-même,
rien.
Je ne comprends pas. Je n'étais pas préparé à trouver le film charmant, et ça a été le cas. Je le trouve supérieur à LOL. Je pensais que ça serait une comédie.
Supérieure à LOL, oui.
LOL, ouais.
C'est pas très difficile, non.
Non, c'est pas très très difficile, je suis d'accord. Et je pensais que ça serait une comédie de situation, et je trouvais que Lisa Azuelos, dans sa manière d'agencer les comédies de situation, il y avait un truc boulevardier que je trouvais un peu cheap. Et en fait, c'est plus un film de portrait. Et là-dessus, je trouve que, grâce à Sandrine Kiberlain, que je trouve vraiment formidable dans le film, c'est un assez joli portrait.
Ah oui, c'est pour Sandrine, en fait, c'est ça.
Bah, je la trouve vraiment formidable dans le film. On est charmé par elle tout le temps. Le film raconte très peu de choses, sinon son sujet, c'est-à-dire la peur de l'arrachement de son enfant. Et le fait que ce soit si peu scénarisé et qu'il soit toujours à l'os de cette question-là, de la peur de cette mère, de couper le lien, je trouve que finalement, le sujet est assez incarné et plutôt touchant.
Pierre, au point où t'en es ce soir, tu vas peut-être aimer ça, non ?
Ah non, c'est nul. C'est absolument nul. Mais alors, c'est tout ce qu'il vient de dire, mais avec les défauts, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de scénario, il n'y a pas de matosphère, il n'y a rien. Il y a Sandrine Kiberlain, en effet, qui est très bien, très bien. Mais enfin, même elle ne peut pas réussir ce qu'on lui demande. Alors, elle fait un petit peu de rap, pour montrer qu'elle fait du rap, tout ça pour plaire, etc. C'est inepte. Elle perd son téléphone dans lequel elle a tout filmé, etc. Le téléphone portable, tout le monde s'y met pour le chercher. Ça dure 20 minutes. C'est un...
Mais c'est la vie, Pierre.
Oui, alors voilà. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est ça, c'est la vie. Et alors, en effet, quand je l'ai vu en salle, et donc il y a des gens qui sortaient en disant « Ah, c'est comme Alex. Ah, c'est comme Mathilde. Ah, c'est comme là. » Et en effet, je crois qu'il y a deux types, maintenant, de films. C'est-à-dire les films où on va voir...
Ce qu'on
ne
dit pas en sortant de Dernier Amour. Hein.
Non. Non, non, ça c'est sûr.
Mais là, ça me fait penser à...
Mais là, on sort de là en disant, il y a des types de films où on se dit, ben voilà, c'est comme chez moi. Et alors il y a des gens qui veulent aller au cinéma pour dire, ben c'est comme chez moi. Et alors ça, si vous êtes partie de ça, allez voir ce film, c'est magnifique. Moi, quand je vais au cinéma, c'est justement pour dire, c'est pas comme chez moi. Donc évidemment, je ne peux pas aimer ça parce que je trouve ça d'une banalité, d'une nullité cinématographique nulle. Enfin, c'est nul, quoi.
Daniel.
Ah ben non, moi je trouve ça très sympathique. D'abord, il y a un sujet, le syndrome du nid vide, ça existe et c'est un vrai sujet. Et puis c'est un film qui se prend pas pour un autre et ça, je trouve que ça repose.
Mais pour quel autre il pourrait se prendre ?
Non, mais
qui
se prend pas, qui se prend pas tout court, qui a pas une ambition démesurée, qui veut raconter.
C'est pas Sunset quoi.
Hein, si, c'est pas Sunset.
Il y a une ambition, c'est d'avoir le plus de spectateurs possible quand même.
Oui, mais ce qui n'est pas d'ailleurs
le film est plutôt sensible. Voilà. C'est vraiment pas une comédie ultra efficace.
Mais oui.
Mais oui.
Non, c'est tellement maladroit que ça peut.
Et effectivement. Bon, je trouve pas que la jeune
Thaïs Alessandra,
la fille de Lisa,
qui est la fille de la réalisatrice, ça c'est pas de sa faute. mais je la trouve pas vraiment très bonne, ce qui est un peu ennuyeux parce que quand même c'est un rôle très très important. Mais ce que fait Sandrine Kiberlain là-dedans est absolument impérial. Je veux dire, mais si, elle est merveilleuse. Elle est en roue libre, elle est en figure libre, elle est insupportable et délicieuse, elle est passionnante et passionnée. Je veux dire, moi, j'ai éprouvé un grand plaisir à voir Sandrine Kiberlain dans ce film que j'ai trouvé, comme dirait l'autre, quelquefois sympatoche.
Nico.
Ben oui, mais alors, c'est toujours pareil, il faut remettre les ambitions d'un film dans ce que le film veut être. C'est-à-dire qu'effectivement, après avoir dit que Sunset était raté, parce que l'ambition est tellement énorme qu'à côté, voilà, le résultat est vraiment pas à la hauteur, là, j'allais dire, l'ambition, elle est vraiment moindre. En termes de mise en scène, c'est effectivement, il y a une esthétique très publicitaire et des moments où elle veut faire du cinéma, et là, c'est des vrais moments problématiques parce qu'elle fait vraiment, elle filme comme dans une pub pour les couches Pampers, enfin, avec des, mais à côté de ça, il y a une justesse.
Elles sont assez bien faites, je trouve,
bah, faut leur reconnaître ça. Il y a un problème de forme, mais c'est pas l'important. Effectivement, Kiberlain est formidable parce qu'elle a un sens de la rupture comique, que même quand elle va trop loin, elle retrouve toujours une forme de naturel et elle est très bien. Qu'il y a un trait assez juste sur le rapport mère-fille, cette mère qui est en fait la vraie gamine du couple, et la fille qui est beaucoup plus mature, et ce rapport de aujourd'hui des mères meilleures copines. Il y a vraiment une justesse très contemporaine et parfois un petit peu superficielle, mais en même temps on s'y retrouve, et ça ne prétend pas à plus, voilà. Et je trouve ça plutôt vraiment très honorable et pas du tout honteux, et il faut de tout pour faire un monde.
Ah oui, ah oui, ça c'est
mon bébé de Lisa Azuelos, une réaction sur ce film. Le micro vient vers vous. Bonsoir.
Bonsoir. Je me demande si Pierre a vu le même film que tout le monde là.
Oui, je pense, oui.
Ben, alors, je ne comprends pas.
Pourquoi vous dites ça?
Mais parce que tout le monde trouve ça bien. Moi aussi, je trouve ça très bien. Il dénigre Sandrine Kiberlain, qui est absolument extraordinaire.
Mais j'ai pas de vous en parlez comme si c'était Greta Garbo. C'est pas Greta Garbo, voilà, c'est tout. C'est bien.
Ben, elle est extraordinaire, cette fille. Elle est d'un naturel confondant.
Oui, elle est bien.
Bon.
Elle est très bien.
On parle juste de ce film. Hein.
Oui, mais devant tous les films, elle est bien, mais là particulièrement.
Oui.
Mais si.
Bon.
Et puis, enfin, je vous assure que, genre, plus, quand on a eu des filles, on s'y retrouve. On reconnaît ses enfants et on se reconnaît.
Ah oui, on se reconnaît, mais c'est bien ça, voilà. C'est un cinéma où on se reconnaît. Mais moi, je me reconnais
pas. C'est exactement ce que disait Pierre.
C'est bien ce que j'ai dit, oui, c'est ça.
Est-ce qu'il y a d'autres réactions sur ce film? Non. Allez, on termine avec Us. Le thriller horrifique et deuxième film après Get Out, qui était bien d'ailleurs, de l'acteur Jordan Peele, une gentille famille, papa, maman et leurs deux enfants qui se rendent dans leur maison de vacances, je vais la faire assez court, où à la nuit tombée, ils vont être rejoints par des amis et attaqués par des très 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 méchants clones. Ça dure 2 heures, donc je vous pose la question rituelle, vous avez eu peur, Jean-Marc?
Moi oui, beaucoup.
Oui.
Et en même temps, chéri, c'est-à-dire que je trouve que le film est assez puissant pour tenir les deux choses en même temps, la farce et le film d'horreur, au premier degré. Et c'est grâce au talent assez exceptionnel de mise en scène de Jordan Peele. C'est-à-dire que ce que le film raconte, je trouve qu'il se prend un peu les pieds dedans. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça poursuit ce qu'il avait déjà commencé à Get Out, sauf qu'il étend la question des classes sociales. C'est plus simplement la question du racisme dans la société américaine contemporaine, mais celle d'une forme de séparation entre les gens qui sont exclus de tout et les gens qui sont privilégiés, qui sont socialisés. Là-dessus, le film fait des twists un peu complexes, mais il y a des moments de cinéma que je trouve totalement bluffants. Je pense que il y a quelque chose qui, disons, remonterait à Hitchcock et dont il est l'héritier à égalité avec un cinéaste qui n'est pas très prisé ici, mais que j'adore, qui est Shyamalan. Je pense que Jordan Peele et Shyamalan sont les metteurs en scène de films de genre les plus puissants du cinéma américain contemporain.
Daniel.
Alors moi j'avais eu plus peur au premier avec Get Out.
À Get Out, oui.
Ah oui, j'avais été terrifiée. Alors là, effectivement, qu'est-ce qu'il veut exactement dire? Que nous sommes nos pires ennemis? Que effectivement il y a les nantis et les pas nantis? Disons que plastiquement, c'est extraordinaire, parce que d'abord, la performance inouïe des acteurs qui jouent donc deux rôles. Les rôles d'une famille lambda, gentille, adorable, et leur clone maléfique, horrifiant. Et donc, effectivement, c'est un exercice de style absolument brillant, mais qui, une fois que le dispositif est en place, voilà. Moi, j'ai été plus terrifiée et plus accrochée par le prologue, le long prologue qui explique le traumatisme de la mère de famille, petite fille perdue dans une fête foraine, dans les miroirs déformants où son reflet est déjà terrifiant et qui annonce en fait le thème du film. Donc, évidemment, c'est passionnant, mais un petit peu répétitif.
Nicolas.
Moi, c'est une petite déception par rapport au précédent, je trouve, par rapport à Gala, parce que je trouve qu'il tombe un peu dans les écueils du second film qui surconceptualise, qui surintellectualise un peu tout. Et moi, le film ne me fait pas peur. Je suis impressionné par la mise en scène, mais il ne me fait jamais peur. Il y a vraiment un déficit d'efficacité émotionnelle dans le film. À côté de ça, moi, c'est plutôt la dimension farce qui me plaît. Effectivement, la mise en scène est incroyable. Il y a un sens de l'image folle. Il faut quand même préciser qu'on doit aussi, c'est le chef-op Michael Giulakis, qui est le chef-op de It Follows et du dernier film de Shyamalan qui explique aussi ça, parce que c'est
tout le monde se le
réaccapare. Et à côté de ça, voilà, il y a plein de références qui sont parfois un peu fumeuses. À la fois, il y a des lapins qui évoquent Alice. On pense au clip de Thriller. Il y a la quatrième dimension qui est toujours là en référence au-dessus. Et de tout ça, il fait pas quelque chose de très convaincant. Reste une actrice absolument fascinante, Lupita Nyong'o, qui est absolument incroyable. Et la manière dont elle change de visage pendant le film, ça suffit, je trouve, à voir le film et un peu trop formel, quoi.
Même question, Pierre, t'as eu peur ?
Ah, pas du tout, non. Non, pas du tout. Mais c'est pas mon truc, ce genre de film. Alors, moi, ça me fait ni peur, ni rire. Je m'ennuie beaucoup. Alors, je suis tout à fait d'accord avec Daniel. Je trouve que le prologue est très inquiétant. Et il y a 2-3 plans comme ça que je trouve magnifiques. Par exemple, il filme en plongée, comme ça, la famille qui marche sur le sable. avec des ombres gigantesques comme ça. Et là, brusquement, on se dit, ah oui, c'est une idée de metteur en scène pour la peur comme ça. Et il y a, à un moment donné, dans les deux tiers du film, il y a un gamin comme ça qui claque des doigts, qui, de façon complètement absurde, sans aucune logique, pour annoncer quelque chose qui va se passer. Et ça, c'est très bien. Mais alors, comme il est obligé évidemment de faire des massacres et je te lance du sang, l'hémoglobine et tout, moi, à partir de ce moment-là, c'est pas Hitchcock du tout pour moi, excuse-moi.
C'est le prologue est revisité à la fin et on comprend pourquoi il y a cette torpeur et cette
mais alors la fin que je ne révélerai pas est quand même assez
ça c'est un scoop ça
assez
ah, j'ai essayé
assez pénible quand même
de Jordan Peele. Allez, un conseil pour finir cette émission, on commence avec Daniel.
Alors, un formidable documentaire de Yolande Oberman, M. C'est une plongée dans le...
Oui, que j'aurais pu d'ailleurs inscrire, parce que c'est un documentaire, mais très important.
C'est vraiment important, cette plongée...
Surtout dans... après, grâce à Dieu.
Voilà. Dans le monde ultra-orthodoxe, dans une petite bourgade près de Tel Aviv. Et c'est un garçon...
Orthodoxe juif.
Et donc, oui, juif. Et donc, c'est le retour sur le lieu du crime d'un jeune homme qui était un enfant chanteur magnifique, adoré par la communauté et qui a été violé et reviolé et reviolé pendant toute son enfance. Alors, évidemment, ça a un écho, hélas, dans toutes les communautés. Et c'est d'une force, c'est à la fois d'une rage absolue et d'une douceur aussi. C'est filmé pratiquement entièrement de nuit et c'est vraiment un film à voir et c'est remarquable. Et il y a un livre qui est l'histoire de M, qui est paru au Seuil, de Yolande Oberman.
C'est vrai, c'était
et Céline Nassib, et voilà. Donc c'est vraiment.
Quand on sort du Ozon, tomber là-dedans, on se dit que. Ouais. Ça va pas fort, Nicolas.
Alors moi, je plussois sur M, parce qu'effectivement, c'était aussi un de mes choix. C'est vraiment formidable. Et alors moi, je voulais parler de Ragtime, un film de Milos Forman, qui est un peu oublié, et qui surtout a été un échec à sa sortie. Un film de 81, si je dis pas de bêtises, et qui fait partie de ces chefs-d'œuvre maudits de la fin des années 70 américaines et du début des années 80. C'est avec La Porte du Paradis, Ragtime et Été d'une fois en Amérique, vous avez trois fresques qui donnent une vision comme ça panoramique de l'histoire américaine assez passionnante et en même temps d'une violence et d'une, là c'est vraiment une charge contre le racisme et le puritanisme assez dingue. Et le dernier rôle de James Cagney, Ragtime de Milos Forman, qui ressort simultanément en salle et en DVD chez Arte Édition, qu'il faut rattraper.
Mon conseil, c'est pas très gai, mais c'est très fort, c'est Rosie Davis, de l'Irlandais Paddy Brosnack, 1h30, mais vraiment 1h30 dans l'habitacle d'une voiture à Dublin avec une famille, 4 enfants, obligés de vivre dans ce cabanon sur roue parce qu'ils n'ont plus de maison. Et donc, ils vont tourner en rond dans la ville. Ils se lavent dans les toilettes des bars. Drame de la précarité qui évoque évidemment ce qu'il peut y avoir de meilleur chez Ken Loach, avec dans le rôle de la mère Courage une fille qui s'appelle Sarah Green, qui est absolument remarquable. Rosie Davis de Paddy Brosnack. Le conseil de Pierre.
Un premier long métrage, mais là, le metteur en scène a déjà une carrière de documentariste, qui s'appelle We the Animals, de Jeremiah Zagar. C'est un gamin qui se rappelle son enfance. Ils étaient trois frères avec des parents un petit peu bizarres et ça a la lente prise de conscience de sa différence. Ça évoque un petit peu, pour ceux qui aiment, le cinéma de Terrence Malick. Ouais. C'est vraiment dans les espaces, dans la cruauté, la façon de filmer. C'est un très, 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 très beau premier film.
Et Jean-Marc, pour finir.
Moi, j'ai choisi un livre, Les écrits critiques de Jacques Rivette. Jacques Rivette, immense cinéaste, comme on le sait, qui a été un très grand critique au Cahier du cinéma, avait choisi de ne jamais rééditer ses textes écrits dans les années 50. Et là, un travail a été fait 4 ans après sa mort pour rendre visible à nouveau l'œuvre critique de Jacques Rivette. Et le livre les textes sont magnifiques, mais le livre est aussi remarquable dans la manière dont il montre un cheminement de pensée et la façon dont Jacques Rivette est passé d'une apologie de la mise en scène comme façon de construire et d'orchestrer le monde à au contraire sa dissolution au profit de l'accident, au profit d'une sorte d'affaiblissement qui est l'invention du cinéma moderne et qui sera ce qui va faire durant toute son œuvre de cinéaste. C'est vraiment un livre passionnant.
Et d'ailleurs, moi, j'inscrirai à un prochain masque, cinéma sans doute, les chroniques de François Truffaut, à la fois dans Art, à la fois dans les cahiers du cinéma, qui sont évidemment d'une méchanceté, en même temps d'une lucidité incroyable. Mais ça, on en parlera.
Oui, tu voulais juste rajouter que c'est chez Post Édition que sortait le livre de Jacques Rivette.
Et le Truffaut, c'est chez Gallimard. Tous ces conseils, vous les trouvez sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr. Merci beaucoup, Daniel Eman, Nicolas Chaler, Jean-Marc Lalanne, Pierre Murat, pour cette émission qui était comme chaque semaine présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lysiane Selam. Ce soir, au Théâtre de l'Alliance Française à la Technique, il y avait, je les remercie, Claire Levasseur, Julie Garraud, Philippe Thibault. La réalisation était signée Xavier Pistuggia. Vous notez bien, s'il vous plaît, que le prochain enregistrement du Masque aura lieu le jeudi 4 avril au Théâtre de l'Alliance Française. 101 boulevard Raspail dans le 6e à Paris pour deux émissions, l'une qui sera consacrée au théâtre et l'autre au cinéma. On parle de livres dans une semaine et je vous dis à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.